Vous vous demandez le lien qu'il peut y avoir entre la pomme de terre et l'intelligence artificielle ? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Bienvenue dans Escale, aventure d'entrepreneur. Je suis Solène Niederkorn et aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'entreprise Downs avec son directeur général, Damien Dubrulle, et son chargé d'affaires de la Banque Populaire du Nord, François Botman. Dans cette deuxième saison, je vous propose de retrouver une nouvelle fois des témoignages d'entrepreneurs qui reviennent sur un tournant de leur société. La nouveauté, c'est que vous entendrez parfois les experts Banque Populaire qui les ont accompagnés et guidés dans ces périodes décisives. Comme un écho pour vous permettre de comprendre l'envers des grandes décisions que prend chaque jour la banque pour développer l'économie de nos territoires. Dans cet épisode, vous découvrirez un entrepreneur créatif, audacieux, mais aussi engagé dans son secteur, celui de la culture de la pomme de terre. Damien nous parle des engagements de sa société dans le domaine de l'IA, avec notamment la récente commercialisation d'une machine équipée de 5 caméras qui trie de manière rapide et efficace les pommes de terre. On est loin de l'image d'un secteur traditionnel et vieillissant. Le témoignage de François illustre quant à lui la très belle relation de confiance entre ce chargé d'affaires et le chef d'entreprise. Vous l'entendrez, c'est cette proximité qui a permis à Damien d'accéder aux bons experts au bon moment, lors de leur première acquisition, dans le cadre de leur internationalisation ou pour du financement. François revient également sur la visite décisive de l'usine par Hélène Madard, qui était alors directrice générale de la Banque Populaire du Nord, une rencontre qui a tout changé pour l'entreprise. Je vous souhaite un bon voyage avec Damien et François et je vous retrouve à la fin de cet épisode.
Damien Dubrulle, directeur général de l'entreprise Dubrulle. J'ai intégré la société en 1993. On était 3 personnes à l'époque. On était importateur de la marque Downs, marque anglaise qui faisait du matériel agricole spécialisé en pommes de terre. En 99, on avait multiplié par 30 le chiffre d'affaires et le patron, au mois de mars, m'a dit « Stop, tu nous passes trop de commandes, on arrête d'en prendre. » Donc je me suis mis à construire des machines. On a créé une première usine avec un bureau d'études en 3D qui était à l'époque plutôt audacieux. En 2006, j'ai racheté Downs, d'où le nom commercial, qui est un nom qui passe très bien à l'international, alors que Dubrulle, un Chinois, par exemple, ne sait pas dire ce mot. Donc j'ai gardé la marque anglaise. Nous étions 3 salariés en 1993. Nous sommes 78 actuellement. Nous sommes très intégrés et nous avons pour particularité d'orienter beaucoup sur l'innovation et l'international. Nous sommes 18 ingénieurs et 2 chercheurs en mécanique et en mathématiques. Depuis le début, on cherche à faciliter le travail de nos clients, les agriculteurs, producteurs de pommes de terre. C'est un métier assez dur. Et on a toujours voulu donner de la valeur ajoutée à nos machines. Et en 2017, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Tout ce que l'œil humain peut voir, l'intelligence artificielle peut le voir et l'analyser 10 fois plus vite. » Je suis rentré chez moi, j'ai pas dormi de la nuit, et j'ai imaginé cette machine. Ça a tout de suite matché entre lui et moi. On a commencé le développement dès le lendemain, en fait, mais sur des bases saines de respect mutuel. On s'estime beaucoup. C'est un spécialiste en intelligence artificielle. C'est une compétence qu'on n'avait pas du tout chez nous, alors que nous, on a des compétences mécaniques. Donc, on était très complémentaires les uns avec les autres. Et ça s'est passé à tous les niveaux de sa société et de ma société. C'est-à-dire que les équipes ont matché tout de suite. Ils avaient un but commun, d'apporter un outil performant et utile aux agriculteurs. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la vision et dans l'intelligence artificielle, mais surtout dans la vision. Et en fait, elle est spécialisée dans le traitement, c'est-à-dire que sur une machine qui traite dans les champs, à 25 km/h, elle va détecter les adventices, donc les mauvaises herbes, et elle va ouvrir les bus de traitement que sur les mauvaises herbes. C'est-à-dire qu'on n'arrose plus tout le champ, mais on envoie des petites doses sur les mauvaises herbes et pas partout. Donc en fait, ça permet de réduire l'utilisation des pesticides de 70, 80, 90%. Pesticides, herbicides. Donc c'est quand même vraiment utile et bon pour la planète. Donc on a utilisé leurs connaissances antérieures pour développer le Crop Vision. Donc le Crop Vision, c'est quoi? C'est une machine de tri optique de pommes de terre. Actuellement, les agriculteurs trient des pommes de terre à la main. C'est-à-dire qu'ils enlèvent les vertes, les pommes de terre vertes, les cailloux, les mottes, tout ce qu'on peut trouver en bord de champ. Des balles de golf, des canettes de coca et des choses comme ça. Et en fait, depuis le Covid, il n'y a plus personne qui veut faire ce métier-là. Donc, soit les producteurs arrêtaient de produire des pommes de terre ou diminuaient fortement, soit on automatisait tout ça. Alors, nous, on l'a lancé avant le Covid, c'est le fait du hasard, mais on a eu de la chance. Et donc, on a sorti le premier prototype en 2018. Alors, il était grand comme la taille d'une voiture. C'était vraiment pour faire les essais. Donc, c'était quoi? C'était une caméra, un ordinateur qui calculait. Puis, on avait développé de l'intelligence artificielle, des algorithmes et des choses comme ça. En 2019, on a fait une machine qui était grande comme, on va dire, deux voitures, un peu plus grande. Et ça fonctionnait bien. Et en 2020, on a lancé la première machine chez un client à côté de Calais. Et là, cette machine faisait 20 mètres de long par 4 mètres de large. Alors, la partie vision est beaucoup plus petite que ça, parce que ce ne sont que 5 caméras dans une enceinte close et on maîtrise la luminosité. Au début, on les vendait que intégrés à nos machines traditionnelles et historiques, le déterreur de pommes de terre. En 2017, l'intelligence artificielle, on en parlait, mais c'était le début. Maintenant, tout le monde en parle et on en met partout à toutes les sauces. Mais vraiment, à cette période-là, c'était le début. Je savais que ça pouvait être utile. Je savais que ça pouvait faciliter la vie de nos clients. Et je savais que ça allait permettre le développement de la société. Donc, pour moi, c'était une nécessité. Alors, cette belle aventure, il fallait la financer. Donc, forcément, on a tapé à la porte des banques. Donc, on avait fait un beau dossier de présentation, mais on n'a pas enjolivé la situation. On a juste présenté le crop vision, le marché, le potentiel et ce qu'il fallait investir. Donc, on a fait un peu le tour des banques. Et en fait, la première banque qu'on a rencontrée, c'est notre banque principale, hein, c'est la Banque Populaire. Et il s'avère que François Botman avait invité Hélène Madard, la directrice régionale de la Banque Populaire, et je lui ai présenté le dossier, je me souviens très bien, et à la fin, elle me dit « Bah, écoutez, monsieur Dubrulle, on prend tout. » Moi, je pensais que j'allais financer ça, parce qu'on parle quand même d'un investissement de 8,5 millions, c'est pas rien. Et je pensais qu'on allait donc financer ça avec plusieurs banques, et en fait, ils ont tout pris.
Donc, je m'appelle François Botman, je suis arrivé à la Banque Populaire du Nord en septembre 2019 en tant que chargé d'affaires entreprise sur le littoral. Je suis aujourd'hui responsable commercial du centre d'affaires de l'île Métropole avec un poste hybride de gestion en direct d'une quarantaine de groupes d'entreprises et accompagnement des équipes sur la partie commerciale prospection. Je connais Damien Debrulle depuis 2014 où dans mon précédent établissement bancaire, j'avais procédé à l'ouverture des comptes du groupe. Pour la petite anecdote, je lui ai annoncé mon départ en septembre 2019 où j'ai vu la déception dans son regard dans le changement de conseiller à venir. Mais je savais que je le récupérais à la Banque Populaire du Nord où il était déjà client. Et puis à mon arrivée sur l'île, j'ai décidé de le transférer dans mon portefeuille compte tenu du timing du projet industriel sur lequel il était en cours de réflexion. Le fait de l'avoir connu avant, ça nous a permis notamment d'être banquier principal, d'avoir cette confiance mutuelle qui nous permet d'être aujourd'hui son banquier de premier cercle. À chaque projet, il nous interroge en amont pour savoir si c'est pertinent et si on a possibilité de l'accompagner. Donc avec la Banque Populaire du Nord, je suis aussi devenu son banquier conseil, avec les expertises qui gravitent autour de nous. Banquier conseil aujourd'hui, c'est banquier de premier cercle du client. C'est quand il y a un projet, il nous interroge en premier lieu, il nous communique sa stratégie d'entreprise et pour avoir aussi la vision de la banque sur ses projets. Donc mon rôle est d'accompagner les chefs d'entreprise au quotidien en leur présentant les interlocuteurs au bon moment. Typiquement, on doit être un chef d'orchestre avec l'organisation des experts qui gravitent autour de la Banque Populaire du Nord. Il y a environ 11 experts avec des métiers bien spécifiques. J'avais aussi réalisé un événement en décembre 2021 à la bijouterie cliente de mon portefeuille avec 25 clients. Il n'y avait pas de thème précis, mais la directrice générale était présente à ce moment-là. C'était le moment judicieux aussi pour présenter Damien. Donc l'événement en question était dans une bijouterie luxueuse. On avait 25 clients qui se tenaient debout. La directrice générale a découvert les activités de chaque client, mais très succinctement, ça a duré 5-10 minutes. Mais à ce moment-là, moi je savais leur projet, ils ont été pertinents, ils ont parlé effectivement d'un gros projet industriel à venir sur la région. Et du coup, la directrice générale s'est engagée à venir les voir en physique. L'événement, du coup, se déroule en décembre 2021 avec la présentation de la directrice générale aux clients. Et on décide d'aller les voir en physique en mars 2022. Le rendez-vous a duré 2 heures, 1 heure de visite de l'usine et de la plateforme de revalorisation de déchets, et 1 heure dans la salle de réunion avec présentation des activités des deux frères, avec un focus plus important sur Damien qui avait un projet industriel de taille, puisqu'il représentait quand même 70% de son chiffre d'affaires. Donc forcément, le montant à financer était très important. On parle de 8,5 millions de besoins avec un accompagnement bancaire à 6,5 millions. 2 heures après notre visite chez les Dubrulle, Hélène Madard qui annonce qu'on prend 100% du projet. Dans ma tête, je suis fier d'avoir présenté Hélène Madard puisque c'était pertinent. Et dans un second temps, je suis un peu stressé d'avoir cet enjeu à monter le dossier et de le faire valider en comité. Il se passe 6 mois entre ce rendez-vous-là et notre accord comité. Qu'est-ce qu'il y a eu entre deux? Il y a eu la sortie des bilans, parce que forcément, un projet de cette taille nécessitait d'avoir les bilans à jour. Il fallait vraiment le prévisionnel précis du projet et le tableau de financement précis des investissements réalisés. Il y avait aussi l'acquisition des terrains qui était un sujet préliminaire à ce projet.
Après, j'ai discuté avec François Botman. Mais on n'était pas prêt, on avait demandé des financements bien en amont. On est arrivé dans la spirale des taux, et là c'était plus compliqué parce que ils pouvaient pas, pour des questions de blocage administratif pour avoir le permis de construire globalement, qui a pris plus de temps que prévu, on pouvait pas lancer. Et donc c'était un peu plus compliqué parce que les taux augmentaient tous les mois, ça augmentait. Par contre, ils sont quand même bien joués de jeu, quoi. Ils ont été tout le temps présents et je suis très content d'avoir travaillé avec eux.
Comment ça s'est passé derrière? C'est présentation au comité, on doit monter le dossier, récupérer tous les éléments qu'il nous faut pour passer au comité. L'avantage à la Banque Populaire du Nord, c'est qu'on présente nous-mêmes nos dossiers en comité circulant, c'est-à-dire qu'il y a nous le présentateur, la région qui soutient le dossier, un avis risque qui est externe à la relation commerciale et qui est un avis neutre, et la directrice générale qui tranche. Donc c'était un dossier qui était challengé, parce que je répète, c'était 70% de son projet, donc forcément c'était un montant de taille importante. On passait d'un endettement qui était très limité à un très gros endettement de main, donc il fallait aussi monter en compétence chez le client pour présenter des documents suffisamment bien informés pour nous aussi on ait une visibilité claire. C'était aussi notre rôle de chargé d'affaires d'accompagner à ce moment-là. Donc quand je lui annonce que j'ai réussi à obtenir l'accord, j'ai senti quand même un étonnement de sa part. Je me rappelle encore lui avoir dit « j'ai réussi à avoir l'accord à 100% ». Il était content et soulagé, mais en même temps surpris qu'une banque prenne à 100% son projet. Et c'est ce qui a fait la différence. On était, je rappelle, en septembre 2022, on était en pleine hausse de taux. Donc je lui ai dit, je lui avais un peu dit aussi d'accélérer sur la sortie des documents pour que ça lui coûte moins cher demain, parce qu'on était tenu d'augmenter les taux un peu annoncés en mars, qui était plutôt de l'ordre de 1,5, et on a plutôt fini vers 3,75 sur 15 ans. Donc forcément on n'est pas sur le même coût, hein. Je répète, on a financé quand même 6 millions d'euros, donc un écart de taux entre 2,5, ça pèse sur la partie financière. Mais le client n'a pas décidé pour autant d'arrêter son projet. Il aurait pu effectivement se dire, est-ce que c'est le moment de se lancer? Je vais avoir 200 000 ou 300 000 euros peut-être de coûts financiers supplémentaires. Mais il avait une telle rupture une innovation de rupture sur son marché. Et avec un marché qui était vraiment très demandeur, on est sur un marché qui est compliqué dans le recrutement sur des métiers pénibles. Il apporte vraiment une innovation là-dessus où les machines sont vraiment compétentes dans le sens où elles permettent de trier efficacement les pommes de terre et d'enlever les cailloux et de même dans les pommes de terre qui peuvent être vertes, un peu trouées, il arrive à les séparer dans un bac et à destination de l'alimentation animale. Donc ça permet vraiment, quand l'exploitant agricole doit livrer des contrats précis avec des industriels tels que Mike Kane, forcément il n'y a que des bacs avec des pommes de terre de très bonne qualité. Donc ça permet vraiment d'améliorer le flux, de gagner en économie, hein, puisque l'exploitant lui-même rentabilise la hausse du matériel qui est à peu près de l'ordre de 100-150 000 euros. Il la rentabilise en 2 ans, puisqu'il a moins de personnel, moins de camions sur les routes. Donc le client, in fine, est très demandeur. Et le bouche à oreille va très vite dans ces exploitations agricoles. Donc on sent vraiment un marché en pleine explosion et qui ne demande qu'à une extension d'usine qui l'a faite.
La première machine a été conforme à nos attentes, il y avait des bugs, mais globalement la satisfaction du client était bonne tout de suite, la perception était bonne. En 2021, on avait décidé de faire 5 machines à moins de 2 heures de chez nous pour assurer un bon service, parce qu'on pouvait vraiment pas se tromper. Et pour finir, on a fait 6 machines, parce que les 4 premières allaient bien, donc on s'est dit, hop, on en sort 2 de plus. En 2022, on avait prévu de faire 20 machines, on a fait 26. Mais se poser le problème de la taille de l'usine. Ce sont des machines dont le prix de vente est compris entre 400 et 500 000 euros. Ce sont des grandes machines. Donc ça nécessite beaucoup d'espace. Et notre usine, donc créée la première en 2002, on avait déjà fait une extension en 2015. Et là, on vient d'en lancer une nouvelle usine avec 5 000 mètres carrés de production supplémentaire. L'objectif 2023, c'est de produire 50 unités et 2024, c'est de produire 100 unités par an. Cette nouvelle usine, je la réceptionne en juin 2023. Nous commençons à rentrer les machines. Donc, la semaine prochaine, il y a un laser tôle, un laser tube et une plieuse qui arrivent. Pour vous rendre un peu compte de la taille, ce sont 13 camions qui vont arriver. Il y a 3 semaines d'installation et après, on commence la formation des opérateurs. Je pense qu'on va mettre la machine en route au mois d'août, deuxième quinzaine d'août. Les machines, parce qu'il y en a 3. On rentre également des systèmes de stockage automatisés qui permettront aux opérateurs de préparer les commandes 5 fois plus rapidement. Donc en fait, c'est un peu comme une machine dans une pharmacie avec des rayonnages qui tournent au niveau industriel. Donc dedans, on peut mettre 50 tonnes de pièces. Une nouvelle usine, c'est quand même un investissement qui représente 9 mois de chiffre d'affaires, des années de bénéfices. Donc en fait, j'ai vraiment attendu la saison 3, c'est-à-dire de vendre les 20 machines, pour être sûr que ça fonctionne aussi bien en France qu'à l'étranger. C'est pas juste un frigo qu'on branche dans un coin de bâtiment. Il y a tout un service, il y a une maintenance, il y a toutes ces choses-là. Donc en fait, il fallait qu'on soit à même de développer le service, le support client, qui soit en adéquation avec les ventes. Donc en 2022, j'ai décidé de lancer la nouvelle usine. J'ai appuyé sur le bouton. Tout était prêt. L'étude, les flux, les machines, tout. Mais j'ai décidé en 2022 parce que je voyais qu'on était sur un trend haussier phénoménal. Et en fait, la nouvelle usine est dimensionnée pour multiplier par 4 le chiffre d'affaires. Donc on a des objectifs très ambitieux, mais je pense qu'on va les atteindre assez facilement.
Damien de Brulle, comment je le vois évoluer? Je le vois accomplir du coup ses prévisions avec un doublement de son chiffre d'affaires dans les 2 ans, avec une obtention, enfin une prévision estimée à 25 millions d'euros de chiffre d'affaires fin 2024-25. Ouvrir de nouvelles entités dans de nouveaux pays. On est quand même sur une innovation de rupture que le marché a vraiment besoin dans ce contexte particulier, où les embauches sur les métiers pénibles sont de plus en plus dures à réaliser sur les exploitations agricoles. Donc on est vraiment sur une réponse à ce phénomène-là avec une économie d'énergie et de carburant et de camions. Enfin, il y a plein d'économies qui en découlent chez l'exploitant agricole. Donc cette innovation vraiment répond à un besoin de marché.
Petite anecdote, mon directeur commercial est parti en vacances et avant de partir, il m'avait dit je ne prends plus aucune commande pour cette année. Il est revenu de vacances en me disant j'ai une nouvelle à t'annoncer, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise, mais je te la donne. En 15 jours, on a vendu 10 Crop Vision. Un seul en France, 9 à l'étranger. Je lui ai dit c'est pas possible, on peut pas les produire. Je lui ai dit tu appelles les clients. Soit tu annules les commandes, soit tu décales les livraisons. Ils ont tous accepté de décaler. Le Crop Vision, ça a été une révolution pour le marché. C'est vraiment une innovation de rupture. Il y a l'avant et l'après. Pour le marché, pour les clients. Pour nous, c'est une véritable innovation de rupture aussi. Il y a l'avant, on faisait des machines classiques comme tous nos concurrents. Et depuis le Crop Vision, on a une image complètement nouvelle, on a une image de boîte très innovante, on a des contacts de partout dans le monde, des gens qui nous appellent de tous les pays du monde pour acheter un Crop Vision. Il y a un réel besoin, ça répond à une attente phénoménale des producteurs de pommes de terre. Et comme la pomme de terre, c'est le premier légume au monde, c'est le légume le plus cultivé, et le premier pays producteur de pommes de terre au monde, c'est la Chine, 100 millions de tonnes. Le deuxième, l'Inde, 52 millions de tonnes. La France, on arrive 8e à 8 millions de tonnes. Donc en fait, pour nourrir la population mondiale, on a besoin de la pomme de terre. Le Crop Vision a vraiment changé fondamentalement la société. Pour donner une idée, en juillet 2022, il y avait une personne à l'innovation. Une personne à l'innovation, c'est les projets à long terme. Maintenant, on est 8. En 12 mois de temps, on est passé de 1 à 8. C'est juste énorme. Ces 8 personnes à l'innovation, ce sont des personnes qui travaillent sur le développement, du back et du front office, de l'innovation qui va nous être utile et qui prépare déjà des produits d'avenir pour l'après Crop Vision. La construction de l'usine, qui je rappelle fait quand même 5000 m², a débuté le 13 décembre et nous sommes début juin, on va réceptionner l'usine. Donc le montage et la construction étaient très performantes et très rapides, c'était bien. Mais ils ont respecté le délai qu'on leur a donné.
Je l'ai visité mi-juin, l'entreprise est déjà en fin de construction. Donc on parle d'un timing de 6 mois environ sur le démarrage du chantier. À la fin du chantier, ça a pris 6 mois sur une nouvelle usine. Damien a aussi mis son énergie là-dedans et on voit que ça apporte ses fruits. Et voilà, l'usine répond vraiment à ses critères. Elle est vraiment fluide dans le process de production. On sent qu'il va réussir à réaliser ses objectifs. Je le vois accomplir facilement ses prévisions.
On prévoit de recruter une trentaine de personnes d'ici fin 2024, principalement des opérateurs, mais il y aura encore un peu de ressources supplémentaires allouées à l'innovation et au bureau d'études. On a fait l'usine grande, mais on se rend compte que ça va vite être trop petit. Donc en fait, on est déjà en train de regarder pour déposer une extension supplémentaire de 5000 m² qui sera opérationnelle, je pense, d'ici 4 ou 5 ans, mais on est déjà en train d'y penser.
L'épisode est terminé, j'espère que ces témoignages vous ont plu. Je vous remercie pour votre écoute et un grand merci à nos deux invités, Damien et François, qui se sont prêtés au jeu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et à lui mettre 5 étoiles. Je vous dis à très bientôt sur Escale Aventure d'entrepreneurs.